Bonjour, vous êtes bien sur la radio PFM 99.9. Pour l'émission Cocta Pinche, c'est un rendez-vous original dans le cadre d'une activité thérapeutique. Elle est proposée par le centre hospitalier d'Arras.
Nous allons vous présenter 4 reportages. Le premier, Francky et Delphine sur le théâtre. Le second, Mireille de l'association Pourquoi pas. Le troisième, avec 2 représentants de SOS Amitié. Et enfin, le quatrième, Gerland nous parlera de son métier d'entraîneur éducateur de football.
Des micro-trottoirs sur l'avenir de l'automobile après le pétrole, votre point de vue sur la pêche de loisirs et sur le suicide des jeunes.
Et enfin, nous terminerons sur une chronique et un billet d'humeur.
Dans Cocteau Pinche, Francky et Delphine nous parlent de leur activité autour du théâtre.
Pouvez-vous vous présenter et présenter le projet commun à l'association Pourquoi pas et Théâtre d'Arras?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Francky Defonte. Je suis comédien professionnel. Et donc, je travaille sur ce projet qui s'appelle Et Pourquoi pas nous, en partenariat donc avec l'association Pourquoi pas et le Théâtre d'Arras. Et donc, moi, j'interviens cette année pour le théâtre. Avec Delphine Silly, ici présente.
Bonjour, donc je suis Delphine. Je travaille au Théâtre d'Arras, un peu plus éloignée du projet en fait. Je suis chargée des relations avec le public. Donc c'est moi qui, toute l'année, accueille le groupe, notamment de Pourquoi pas, pour venir voir des spectacles au théâtre.
Voilà, parce qu'en fait, la particularité du projet, c'est que d'une part, permettre aux jeunes gens de s'initier, de découvrir la pratique théâtrale. Donc on se rencontre tous les jeudis après-midi, 2h, et on fait une séance d'atelier en plusieurs temps, avec un petit temps d'échauffement, un petit temps de travaux collectifs de jeu, puis après on passe sur le plateau, on travaille après des petites improvisations, on travaille sur des textes pour comment résumer un petit peu la façon dont on travaille. Donc ça c'est le premier volet, l'initiation au rôle de l'acteur. Et puis dans un deuxième temps, qui me semble aussi tout aussi important et essentiel, l'initiation au rôle de spectateur, où effectivement les participants à l'atelier, pendant toute l'année, vont voir 5-6 pièces de théâtre qu'on a choisies ensemble avec Delphine. Et puis Mireille Tenza, l'animatrice de Pourquoi pas, à la demande de laquelle on intervient sur le projet. Et puis donc Delphine fait tout le travail en amont et en aval, présentation avant, mais là elle en parlera beaucoup mieux que moi.
Alors il s'agit, présentation avant, en fait on retrouve les groupes, on parle des spectacles, et puis autour des spectacles il y a aussi parfois l'occasion de rencontrer les équipes, d'assister à des répétitions publiques, et puis de discuter aussi après le spectacle des impressions de chacun sur ce qui a été vu.
Pourquoi avez-vous choisi le théâtre?
En fait, quand on me demande pourquoi je fais du théâtre, moi j'ai souvent pour habitude de répondre par une phrase d'un auteur qui s'appelle Heiner Müller, qui est un auteur allemand, qui dit que le théâtre c'est une protestation contre l'état du monde. Et donc pour moi vraiment, faire du théâtre c'est pouvoir s'adresser à mes contemporains, et puis sur des sujets qui me touchent personnellement, et puis qui j'espère touchera le public.
Pour moi ça sera un peu différent parce que je suis pas dans la pratique du théâtre en fait, je travaille dans le domaine du théâtre mais plutôt de l'autre côté, du côté de la barrière de l'administration. Je savais que je voulais travailler dans le domaine culturel parce que c'était des choses qui m'intéressaient, et puis dans le rapport avec le public, et il me semble que c'est au théâtre, en tout cas dans le spectacle vivant, que le rapport avec le public il est le plus important, enfin pas le plus important mais en tout cas le plus flagrant. Donc voilà, j'avais envie d'accueillir des gens et de discuter avec eux, de prolonger le lien entre le public et les artistes.
Et moi, je voudrais juste peut-être ajouter une petite chose, c'est qu'effectivement, donc j'ai commencé à faire du théâtre il y avait une vingtaine d'années, par hasard comme ça, à l'université, je suis tombé sur un atelier de pratique. Ça a vraiment été une révélation, je me suis dit, waouh, je suis en scène, j'ouvre la bouche et on m'écoute. Forcément, au théâtre, hein, quand on est comédien, on s'empare de la parole d'un auteur qui est le passeur de cette parole. Mais ce que je voulais dire avant tout, c'est que j'ai choisi d'apprendre quand j'avais 20 ans, suite à cet atelier que j'avais fait. Donc j'ai choisi d'aller pousser la porte du conservatoire pour apprendre mon métier, pour apprendre le métier de comédien. Mais je voudrais dire aussi que c'est un métier qu'on ne choisit pas forcément, c'est-à-dire que c'est plutôt le métier qui vous choisit. C'est-à-dire que il faut effectivement être choisi par des metteurs en scène, des réalisateurs, et que peut avoir toutes les qualités en tant que comédien, et c'est un métier extraordinaire mais pas facile, parce qu'il y a, j'allais dire, beaucoup de monde sur le marché, même si le mot marché me plaît pas tellement, mais c'est quand même une réalité, quoi. Et souvent là je me pose une question et j'y réponds quand on me demande, je suis comédien, je sais pas si je serai comédien toute ma vie, parce que j'espère pouvoir continuer à donner envie aux gens de travailler avec moi, mais rien n'est moins sûr.
Qu'est-ce que vous apporte le théâtre ?
Que m'apporte le théâtre ? Beaucoup de choses, beaucoup d'enrichissement personnel et aussi culturel. Et puis le théâtre, ça m'amène de l'évasion et de la réflexion.
Pour moi, c'est un métier passion, c'est-à-dire que c'est... Comme je pense beaucoup de comédiens, on fait ce métier parce qu'on aime ce métier, et c'est vraiment un métier qu'on fait. Comme pour moi, c'est un moyen de m'exprimer, c'est un moyen de dire des choses. Quand j'ai plus moyen de m'exprimer, quand j'ai plus moyen de dire des choses, et puis de travailler en groupe et en équipe, parce que moi, ce qui me plaît aussi dans le fait de participer à des aventures théâtrales, c'est tout travail de compagnie, c'est de travailler en équipe, à plusieurs, sur un projet collectif.
Quel style théâtral préférez-vous jouer ?
Eh bien, moi, ce qui me fait avancer... c'est aussi de pouvoir travailler sur différents styles théâtraux. Je sais, quand j'étais au conservatoire, je faisais des parcours et j'étais plutôt catalogué. J'avais une nature, comme on dit au théâtre, et un emploi de valet de comédie. Donc, je travaillais beaucoup, tous les valets. Je ne vais pas dire que je n'ai pas travaillé tous les valets de comédie, parce que c'est un répertoire vaste. Mais voilà, donc moi, j'aime beaucoup... des personnages comme Sosie, par exemple. Enfin, j'avais un emploi de valet. Donc, mon emploi était plutôt un emploi à travailler les valets de comédie. Donc, voilà, j'ai travaillé différents types de valets, comme les valets chez Molière, Sosie, Sganarelle. Je pense que l'intérêt d'un comédien, enfin, l'intérêt du travail de comédien, c'est aussi de pouvoir passer d'un personnage à un autre, d'un rôle à un autre, et de pas se cantonner à un style précis. C'est comme un artisan, un comédien, c'est-à-dire que il doit pas se cantonner, en tout cas moi c'est ma vision, il doit pas se cantonner à une chose qu'il sait faire, mais je pense essayer d'ouvrir sa palette et d'aller là où il n'aurait pas forcément l'idée d'aller, sur des personnages qui lui correspondent pas forcément.
Alors comment vous préparez-vous avant de monter sur scène ?
Chaque comédien a son... sa petite façon de faire, mais moi je sais que j'aime bien, pour me décontracter, me détendre, histoire d'être bien dans mon corps avant de jouer, je me prends une petite heure avant de monter sur le plateau, puis je fais plein de petits exercices corporels pour reprendre possession de mon instrument corps, puisque comme un pianiste ou un violoncelliste qui doit maîtriser son instrument, l'instrument du comédien, c'est son corps.
Nous remercions Francky et Delphine pour leur intervention.
Vous êtes toujours sur PFM dans l'émission Coq Tapinche. Deuxième reportage avec Mireille de l'association Pourquoi Pas.
Bonjour, quel est le but de l'association Pourquoi Pas ?
L'association Pourquoi Pas a pour but d'offrir des activités à des personnes qui sont très loin de l'emploi, voire même quelquefois qui ne peuvent pas travailler du tout, et de rendre service à des associations. C'est-à-dire que toutes les activités qui sont faites à l'association sont destinées à des associations caritatives de la communauté urbaine d'Arras.
Quel genre d'action mettez-vous en place ?
Alors, il y en a de nombreuses et je crois que je vais en oublier pas mal. Mais ce qu'il y a de plus important, la récupération de vêtements pour les Restos du Cœur, par exemple, ou le Secours Populaire. Le relais bébé des Restos du Cœur, effectivement. On a un atelier jeux de société, petit bricolage. Il y a aussi un atelier poésie avec une bénévole. Il y a un atelier lecture-écriture avec la médiathèque d'Arras.
Alors pourquoi pas ?
La personne qui a créé l'association se disait que les personnes qui étaient en stage de réinsertion, qui étaient très loin de l'emploi, qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps, elle se disait, la personne qui a créé cette association, pourquoi il n'existerait pas un endroit qui permettrait, entre une fin de stage et peut-être un début d'activité professionnelle, un endroit pour se permettre de se ressourcer, de se recréer des activités, de réapprendre à se lever le matin, à se coiffer, à s'habiller, enfin, à faire comme tout le monde quand on va travailler. Donc elle a dit pourquoi pas, et ben donc l'association s'appellera Pourquoi pas.
Okay. Avec quel type d'association travaillez-vous ?
Alors je travaille avec des associations caritatives et je travaille aussi avec toutes les associations qui sont basées sur le quartier, là où se trouve l'association, c'est-à-dire dans le quartier Arras Sud.
Quel public recevez-vous ?
Alors c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, des personnes donc qui voire n'ont pas du tout l'autorisation de travailler. C'est quelque chose qui existe. On n'a pas le droit de travailler. Ça peut être notifié sur un papier qui émane de certaines institutions. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des activités et ils veulent participer à notre vie sociale, à la vie d'Arras et à la vie...
Qu'apporte le théâtre aux adhérents de votre association, Mireille ?
Alors, le théâtre, moi, j'ai vu... j'avoue qu'on a démarré en octobre et je vois des choses superbes se profiler au fur et à mesure des séances. Je pense que ça permet à chacun de sortir des choses qu'ils ont en eux, d'apprendre d'abord à travailler avec un professionnel, ça c'est important, professionnel du théâtre, et puis je vais dire de se surpasser, de toujours aller plus loin, de faire attention à l'autre, de faire preuve de respect, de solidarité, d'écoute, apprendre à bouger aussi, c'est pas évident, hein, quand on est là, on est dans un coin de la pièce, on va pas forcément commencer à s'étaler dans toute la pièce, mais le théâtre ça permet de faire ça, de bouger, de parler, de réfléchir, de comprendre. Enfin, c'est tellement énorme ce que ça peut apporter aux personnes que je pense que c'est quelque chose vraiment de génial.
Où est située votre association et quand peut-on s'y rendre ?
Alors l'association est située à Arras Sud, donc derrière la gare, à la maison de service Jean Jaurès, rue Jean Jaurès. Et on peut s'y rendre le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h.
Pourquoi avez-vous adhéré à Pourquoi pas ?
Ben parce qu'il y a beaucoup d'activités, faut se lever tôt le matin pour 9h, être là-bas. Il y a de la couture, il y a du repassage, Valérie fait du repassage, moi de la couture. Ensuite, il y a des autres activités, des jeux, tout ça, le vendredi.
Ben moi, je m'appelle Patrick, j'aime bien le théâtre avec Branqui. Ça fait un bout de temps que je suis parti là-dedans.
Pourquoi avez-vous adhéré à Pourquoi pas ?
Pour le vendredi, je fais atelier jeu. Le jeudi, on fait du théâtre avec Francky.
Alors pourquoi avoir choisi le théâtre ?
Ben moi, j'aime bien le théâtre, surtout en faire. Je pense plus à ses malheurs, à ses problèmes surtout. On est dans un autre univers. Et puis répéter quelque chose, parce que moi là, je fais contre la cigarette. Moi, je trouve que c'est merveilleux de faire du théâtre. Savoir le test, répéter, je trouve que c'est un... En plus, on voit personne... Moi, quand je joue, je vois personne autour de moi. Je me vois libre.
Bah moi, j'ai choisi le théâtre parce que j'aime bien ça avec Francky. On fait des jeux, on se réchauffe, et après on répète. On est à 6 personnes.
Déjà, je suis venu par curiosité parce qu'ensuite, ça m'a plu et on apprend à s'exprimer, à bouger, à faire des mouvements. Déjà, être acteur, c'est plus être soi-même. C'est un personnage, c'est apprendre à crier, à faire le gentil, à... On n'est plus nous-mêmes, quoi. C'est ça. Et c'est dur.
Pour moi, être acteur, ça veut tout dire. Parce que bon, on peut jouer aussi avec les mots, faire avec un test. Alors moi je lis une partie, la petite partie, une autre partie, et je trouve aussi ça c'est un jeu, je trouve ça marrant.
Parce qu'effectivement, comme le dit Hugues, en fait le comédien c'est quelqu'un qui s'empare du masque du personnage, et donc derrière le masque du personnage et à travers les paroles qui sont pas les siennes mais qui sont celles de l'auteur, il peut s'amuser effectivement à être quelqu'un d'autre, quoi. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est libérateur. on sent que ça, qu'on est dans le plaisir ensemble, et ça c'est extraordinaire, et je suis content que cette idée de plaisir soit passée, mais parfois est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments un petit peu plus compliqués, un petit peu plus difficiles?
Si, je crois, parce que répéter, ben il faut le savoir par cœur. Il faut répéter, répéter, toujours répéter pour le savoir par cœur. Il faut faire les mouvements aussi, se réchauffer avant de faire le spectacle. Moi, j'ai déjà fait Cendrillon à la PP d'Arras. Ben, moi, j'ai pas peur de faire du théâtre. Si, j'ai des petits frissons de temps en temps, mais comme j'en ai déjà fait, bon, ben, je suis déjà posée, donc j'ai pas du tout peur à faire mon... Mais j'oublie beaucoup, donc il faut répéter. C'est vrai que... Le test, il est long, quelquefois, donc il faut répéter, répéter. Je le sais par cœur à peu près, mais quelquefois, bon, ben, j'oublie des mots, je vais trop vite pour parler, donc je crois que... ou j'embrouille, donc c'est un peu difficile quand même, il faut dire.
Dans la vie quotidienne de Pourquoi pas, donc au niveau des ateliers du matin, c'est vrai que tous les participants sont très attachés à tout ce qui est tout ce qui touche la santé, hein, donc l'alcool, la cigarette, le sida, les maladies, le diabète, le cholestérol, etc. Et c'est vrai que en faisant du théâtre, on arrive à faire passer des messages sur la santé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau des auteurs contemporains qui ont été choisis, ben, y a beaucoup de textes qui touchent. Alors il y en a un qui touche à l'alcool, il y en a un qui touche à la cigarette, il y en a un qui touche à la drague, je veux dire aux petits dangers qu'il y aurait si on folâtre un peu partout à droite à gauche. En fait, on reste sur des sujets de la vie de tous les jours.
Coq ta pinche.
Hein? C'est une émission réalisée dans le cadre d'un projet thérapeutique du centre hospitalier d'Arras.
Coq ta pinche, de lundi 30 à 14h, rediffusé le mardi 1er juillet à 21h30 et le mercredi 2 à 23h30.
Avant de retrouver deux représentants de SOS Amitié, nous vous présentons un micro-trottoir sur le suicide chez les jeunes. Avant de retrouver deux représentants de SOS Amitié, nous vous présentons un micro-trottoir sur le suicide chez les jeunes. Alors le suicide chez les jeunes, qu'en pensez-vous? Et comment y remédier?
Difficile à juger. Vous dites que c'est les parents responsables, hein?
C'est pas forcément la drogue, ça peut être des problèmes individuels ou...
Je comprends pas pourquoi, admettons qu'il y ait des jeunes qui ont 17-18 qui se suicident.
Déjà c'est vrai que c'est un phénomène de société, le suicide chez les jeunes, on en parle beaucoup déjà dans la presse. Comment y remédier? Suivre plus les collégiens qui se sentent mal, ils devraient plus aider à en parler, les envoyer vers des gens spécialisés là-dessus. Créer une cellule interne dans les collèges, les lycées, vraiment spécialisés là-dedans pour que les jeunes aillent en parler de leurs problèmes, de ce qu'ils subissent à l'école, soit par les professeurs, soit par leurs camarades de classe, mais vraiment des gens spécialisés, pas des gens comme là maintenant qui s'en foutent carrément, quoi. Enfin, entre guillemets, bien sûr.
J'en pense que c'est quand même navrant.
Une manière de lutter contre ça, ce serait que les gens soient plus informés.
Il y a peut-être une information à faire un peu plus... Oui, je pense, à mon avis. Les jeunes sont quand même dépourvus à l'heure actuelle. Ils arrêtent la scolarité à 16 ans, il n'y a pas de débouchés, ils ont parfois de bonnes formations et ils n'arrivent pas à faire face parce qu'ils n'ont pas de travail.
C'est un sujet complexe, quoi. Il faudrait déjà que ça se passe mieux, enfin je sais pas. Ça dépend au niveau des familles, on peut pas ranger ça comme ça.
Ça c'est une question avec une réponse un petit peu difficile. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Bon, ça peut être comme ça, un petit chagrin d'amour, et puis on prend des trucs, on meurt. Il y en a qui n'en meurent pas et qui regrettent. Enfin bon, c'est très compliqué, hein, je sais pas. Le suicide, c'est effectivement mettre fin à quelque chose d'insoutenable, d'intolérable. Alors ça peut être sur le coup. Hein, ma petite copine m'a quittée, je me suicide. Ou alors ça peut être des choses très très longues, je pense aux psychotiques notamment. Hein. Donc c'est très compliqué.
Je ne saurais pas vous dire ce que j'en pense. Je n'ai jamais été confronté à ce genre de choses, heureusement. Garder la famille plus unie, je pense que les enfants sont désespérés d'être seuls. Ça, je l'ai eu dans mon bureau comme chef d'établissement. Moi, je les ai vus pleurer chez moi. Bon, ils ne sont jamais suicidés, mais... ça choque beaucoup. Je pense que c'est d'abord la famille et ensuite, bon, la société aussi qui est responsable, certainement, hein. Mais il y a d'abord le noyau familial. C'est comme ça qu'on gardera les jeunes dans un esprit, je vais dire, constructif et non pas de se détruire pour partir, quoi. C'est ça.
Comment y remédier ? C'est la prévention. Il faut beaucoup discuter avec eux, autant les enseignants que les parents et dans tous les lieux où peuvent aller les jeunes. Je pense qu'il faut énormément discuter avec eux.
Le dialogue, c'est la solution systématique, vous pensez ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une solution, mais bon, c'est au moins une prévention, disons.
Pour rester en lien avec un fait de société récurrent en France, il paraît indispensable d'évoquer ce sujet avec SOS Amitié.
Qu'est-ce que SOS Amitié ? Quel est le but ?
Voilà. SOS Amitié, c'est une association qui existe depuis déjà une cinquantaine d'années et qui a pour but d'aider les personnes en difficulté ou angoissées à se trouver mieux dans ce qu'elles sont. C'est-à-dire que, à l'origine, SOS Amitié a été surtout créé pour répondre aux personnes qui avaient envie de se suicider. Mais petit à petit, on est arrivé à une écoute de toutes les personnes qui ont un problème, qui sont mal dans leur peau, qui sont angoissées, qui ont... n'ont personne à qui parler. C'est très souvent des personnes simplement qui, autour d'elles, n'ont personne à qui parler ou n'osent pas raconter toujours la même chose à leur entourage. C'est donc ça, je pense. Alors, il y a en France 50 postes de SOS Amitié, un petit peu partout en France. Sur le Pas-de-Calais, nous avons un poste qui existe depuis 20 ans.
Comment recrutez-vous vos bénévoles écoutants ?
Une fois par an, on voudrait bien deux fois par an, on essaye par un message dans les journaux de recruter des gens. Alors, c'est la première étape. Donc les gens nous envoient leur candidature, on leur envoie quelques documents pour déjà les informer de ce qui va se passer, la durée d'écoute, combien de temps ils devront passer au sein de l'association, et ensuite on les reçoit. Alors il y a deux personnes qui reçoivent ces nouvelles personnes pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Entre parenthèses, on leur pose une dizaine de questions pour voir un peu quelles sont leurs motivations d'abord. Ensuite, après les avoir reçues, ces personnes, on les dirige vers un psy qui va encore creuser pour voir un peu ce qu'ils ont dans la tête. Et après ce passage en psy, ces gens-là vont recevoir une formation, pardon, pendant une trentaine d'heures. Et après, ils commencent à faire des écoutes en double pour voir un peu comment ils se comportent. Et puis après, ils sont lancés dans notre association comme écoutants.
Quelles raisons les personnes appellent-elles le plus souvent ?
Le plus souvent, c'est la solitude. La solitude, ça ronge les gens. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls pour des raisons particulières, des personnes âgées. Il y a également des gens qui sont divorcés ou des gens qui ont choisi d'être seuls. Donc, la solitude, les problèmes matériels, logement, travail, chômage, finances, les relations humaines, relations de couple, relations sentimentales, les problèmes familiaux, grossesse, rupture, deuil, etc. Les problèmes religieux, juridiques, moraux, sexuels, les phonophiles aussi, les pédophiles, les problèmes de santé, dépression, les suivis psy, les problèmes mentaux et les problèmes de suicide, bon, qui ne représentent pas une grande partie de nos appels, mais qui sont présents quand même.
J'ai une question, c'est quoi phonophile ?
C'est peut-être difficile à expliquer ce qu'il voulait dire avec les phonophiles. Ce sont une certaine catégorie de personnes qui veulent profiter de nous pour nous raconter leurs problèmes sexuels et que nous ne sommes pas là pour les écouter. Simplement, s'ils ont des problèmes, oui. Si c'est pour profiter de nous, on n'est pas là pour ça.
Voilà. Et ils appellent en particulier les dames.
Hein. Y a-t-il des personnes qu'ils appellent régulièrement et que faites-vous dans ces cas-là ?
Oui, nous avons pas mal de personnes que nous appelons entre nous quelquefois des habitués. Ce sont des gens qui nous appellent régulièrement, souvent, peut-être parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, ils ont un problème. Ce problème, quelquefois, ça peut durer plusieurs années, où nous les entendons régulièrement pendant plusieurs années. Et quelquefois, au bout de de 6 mois, ou au bout d'un an, ou au bout de 2 ans, ou au bout de 3 ans, nous ne les entendons plus. Est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'ils ont renoncé à nous appeler? Il arrive quelquefois que nous avons, j'ai dans ma tête une personne ou deux, qui nous appelait régulièrement pendant 3 ou 4 ans. S'il y avait une jeune femme, il y en avait d'autres, enfin, parce que vraiment ils se sentaient très malheureux, très dépressifs, très angoissés. Un beau jour, on ne les avait plus. Et puis quelquefois, 3 ans après, on a un coup de téléphone. « Est-ce que vous vous rappelez de moi ? Je m'appelais XY. Et maintenant, vous savez, ça va très bien. Et je voulais téléphoner pour vous le dire. » Voilà. Et ça, ça nous fait plaisir quand on entend ça.
Et sinon, où est situé votre siège social ?
Ah, nous ne le disons pas parce que nous sommes... Et ça, ça va rentrer peut-être dans la question que vous nous posez, que vous vouliez nous poser tout à l'heure, je crois, qui est une question sur l'anonymat. Et là, on vous en reparlera.
Est-ce que les personnes gardent leur anonymat ?
Oui, absolument. C'est une des règles de SOS Amitié, c'est qu'on préserve l'anonymat. L'anonymat de la personne qui appelle, c'est-à-dire que le numéro ne s'affiche pas quand elle appelle, ça n'existe pas chez nous. Et puis la personne ne dit pas son nom, ne dit pas son prénom, et puis elle peut engager une conversation en toute liberté. Mais ça, c'est une grande force chez nous, c'est de préserver l'anonymat absolument.
Comment évaluez-vous vos actions auprès des personnes ?
Évaluer, c'est difficile à cause justement de l'anonymat. Si une personne ne nous rappelle jamais, eh ben, est-ce qu'elle a été contente de notre appel ? Est-ce qu'elle a, de notre réponse ? Est-ce qu'elle a été mécontente ? Si elle retéléphone pour le dire, nous le savons. Sinon, nous ne savons pas. Et nous savons juste entre nous que nous sommes toujours aidés par des psychologues. Parce que quelquefois, on peut avoir des appels très durs, entre autres de personnes qui se suicident. Et si on n'est pas aidé par des psychologues pour pouvoir savoir si on a bien répondu ou pas trop mal répondu, et que l'on soit aidé pour que dans un prochain appel, nous soyons mieux capables de répondre. Nous avons donc, mon collègue vous a parlé tout à l'heure de la formation initiale pour les débutants, mais c'est également une formation continue. C'est-à-dire que tous les 15 jours, nous avons des réunions avec des psychologues pour être aidés dans les questions que nous nous posons. Voilà.
Est-ce qu'il existe d'autres associations comme la vôtre qui peuvent soigner la détresse ?
Oui, il y a pas mal d'autres associations, mais qui sont beaucoup plus spécialisées. C'est-à-dire, il existe un SOS suicide, il existe un SOS sida, des SOS... Donc, nous sommes plutôt, je dirais, un SOS généraliste. C'est-à-dire que nous répondons à toutes les demandes, quelles qu'elles soient, que ce soit un problème, comme il vous l'a dit, un problème de couple, problème d'éducation d'enfants, de suicide, de difficultés financières, de gens qui sont en dépression. Nous sommes généralistes.
Vous prenez tous les cas, alors ?
Nous prenons tous les cas. Nous ne refusons jamais personne. Et nous avons dans un principe, c'est même de ne jamais raccrocher au nez de la personne. Nous écoutons et nous l'aidons à trouver elle-même sa réponse. Nous apprenons à écouter la personne et à l'aider à trouver toute seule le moyen d'être aidée en elle-même. Parce que chaque personne a plein de ressources en elle. Ce qui est important pour nous, c'est de l'aider à pouvoir faire apparaître ses ressources.
Quel est le taux de suicide en France ?
Ah, le taux de suicide. Je vais plutôt vous donner des chiffres. La mortalité par suicide, c'est quelque chose de quand même énorme, parce que on parle beaucoup des accidents de la route en ce moment, on est à 4 000, 5 000 morts, mais le suicide, c'est 12 000 morts par an. C'est quelque chose de considérable. Il faut savoir que dans la tranche d'âge des 15-24 ans, c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de voiture et de scooter, tout ça. Et parmi les 24-35 ans, c'est la première cause. Et on peut observer que plus on monte dans la pyramide des âges, plus on est vieux, plus il y a de suicides. Et parmi tous ces suicides, il y a quand même environ 600 jeunes. Je parlais des 15-24 ans, mais en dessous de 15 ans, il y a quand même quelques dizaines de suicides et de morts par suicide.
Pouvez-vous rappeler les coordonnées de SOS Amitié ?
Voilà, alors nous sommes donc dans le Pas-de-Calais, SOS Amitié Pas-de-Calais. Nous avons un numéro de téléphone qui est connu, donc qu'on met partout. Nous avons également une possibilité pour les jeunes, ils aiment souvent mieux Internet. Donc, nous avons aussi un numéro internet. Tout ça, notre numéro de téléphone, c'est le 03 21 71 01 71. Je ne me trompe pas?
C'est bon, exact.
C'est bien. Donc, ça va. Mais on vous le laissera par écrit. Nous avons également donc notre boîte postale pour si on veut nous écrire, puisque nous vous avons expliqué que nous ne donnions jamais notre adresse. C'est la boîte postale 511 Arras CEDEX 8, une adresse internet, parce qu'il y a des jeunes qui trouvent que le téléphone c'est ringard, c'est plus à la mode, c'est plus de leur époque, et donc qui préfèrent écrire par internet et qui ont une réponse dans les 24 heures. Parce qu'effectivement, il faut le temps que des personnes lisent cette lettre, que ça devienne anonyme, parce que il n'est pas question de la règle de l'anonymat reste toujours la même. Donc c'est crypté, c'est, je ne sais pas, le système, il y a un système. Et dans les 24 heures, la personne qui a écrit sur Internet a également sa réponse. Que nous assurons 24 heures sur, une écoute, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas toujours très facile de trouver des écoutants, parce que on demande à chaque écoutant d'assurer 24 heures par mois, dont une nuit. Et les nuits, c'est là qu'on a souvent le plus d'appels de personnes dans l'angoissée, mais ça représente que ceux d'entre nous qui font cette écoute la nuit, ils soient là, réveillés à côté du téléphone de 10 heures du soir à 8 heures du matin.
Nous remercions ces deux représentants de SOS Amitié.
Sur PFM, vous écoutez l'émission Coctinpinche. C'est un rendez-vous original dans le cadre d'une activité thérapeutique. Elle est proposée par le Centre Hospitalier d'Arras.
En cette période agréable pour la pêche, sur PFM, un micro-trottoir sur la pêche de loisirs.
Qu'est-ce que vous pensez de la pêche ?
Bon, c'est bien. C'est un loisir comme un autre.
Ah mais je suis pêcheur, moi, donc j'adore ça.
Pourquoi vous pêchez ?
Parce que ça me fait respirer, ça me met dans la nature, voilà. Je pêche à Boulogne et aussi dans un étang. Mais c'est pas pour prendre de poissons, c'est pour passer le temps, voilà.
J'en pense rien, j'y vais jamais. Je pratique la pêche, mais pas ici, du côté de Montreuil. Oui, c'est un loisir intéressant.
Et plus personnellement, pourquoi vous pêchez, en fait ?
Ah, pourquoi je pêche ? Mais ça, je vous dirai pas.
Que pensez-vous de la pêche ?
La pêche ?
Ouais. Bah, pas grand-chose, parce que je ne suis pas pêcheuse, alors.
C'est pas trop mon truc, on va dire.
C'est un hobby comme un autre.
Est-ce que vous-même, vous avez déjà pêché ? Vous connaissez ?
J'ai pêché. Ça m'a plu. Bon, bah, une journée, ça passe, mais bon, c'est pas un truc...
Ouais, j'ai déjà pêché, ouais. Et je trouve que la pêche, finalement, ça a du bon, parce que ça permet à certaines personnes de se détendre. Voilà ce que je vois au niveau de la pêche.
Pourquoi pas ? Je préfère la pêche que la chasse, par contre.
La pêche, laquelle de pêche ? Pêche en mer ou la pêche à... Ah bon, moi, c'est une détente, hein. Ah ouais, on est tranquille, les petits oiseaux, la pêche, le soleil, surtout. Voilà, je garde pas le poisson, moi, je le rejette. C'est uniquement pour pêcher puis remettre à l'eau.
La pêche, j'aime bien la pêche, mais je préfère au torrent parce que c'est plus sportif. Mais à l'étang, c'est pour me reposer. Yeah. Bon, on est d'accord.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Au vu de l'augmentation du tarif du pétrole, une question se pose sur l'avenir de l'automobile.
Comment voyez-vous l'avenir de l'automobile après le pétrole ?
Ben, je pense que... le monde est tellement con que l'automobile a toujours un avenir malgré le pétrole, quoi. Ouais. Je crois qu'on trouvera vraisemblablement d'autres sources d'énergie pour faire fonctionner les voitures et pour entuber les mecs qui voyagent en voiture. Voilà. C'est ce que je pense très sincèrement.
Grande question. Je pense que l'automobile existera toujours, mais qu'elle se déplacera différemment, à l'électricité, à l'hydrogène, à l'atome, j'en sais rien encore.
Oh ben, ça serait bien qu'ils trouvent autre chose que du pétrole à mettre dans les réservoirs, de l'eau par exemple.
Non, l'électricité, après l'électricité.
Oui, bah, l'électricité, et puis oui, parce que le pétrole, ben, il n'est pas inépuisable, un de ces jours on n'en aura plus. On ira à pied, ce qui n'est pas plus mal non plus.
Ou en vélo.
Ou à vélo.
Comment vois-tu l'avenir de l'automobile après le pétrole ?
Bah, ça va être la galère, je pense. Hein.
On ira à pied. Ça fera du bien.
Sincèrement, j'ai pas trop d'idées là-dessus. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des lobbies très importants qui veulent de toute façon reprendre les dessus partout. Mais en ce qui me concerne, l'avenir, je le vois pas tellement bien, quoi.
Il faut préciser que vous êtes chauffeur de taxi, c'est ça ? Je sais pas, est-ce que vous pensez qu'un jour vous conduirez un taxi sans essence ?
Ben, je pense que ça va venir, mais à quel prix ? Tout est là. Si c'est pour avoir les mêmes tarifs que nous avons actuellement au niveau du gasoil, par exemple, ça sera pas intéressant. Maintenant, si c'est dans un cadre économique, purement économique, oui, ça m'intéresse. Et nous, ça va nous intéresser fortement. Et si demain, des concessions font le travail en adéquation avec notre métier, nous, c'est sûr et certain, en ce qui me concerne, par exemple, oui, j'irai dans tout ce qui est économie.
Ouais, le pétrole, bah, ça sera peut-être un mieux pour l'environnement.
Comment on fera si on n'a plus de pétrole ?
Ah ben, on roulera à vélo.
Bah, je vois mal, parce que pétrole vert, mais vous voyez pas les champs qu'il va falloir faire, c'est affolant, hein. Parce que même le colza, c'est bien de faire des champs de colza, et puis mais on n'a pas ce qu'on dit, ça commence déjà à user les sols, alors c'est peut-être pas évident non plus. Hein. C'est pas évident comme réponse, parce qu'on ne sait pas. Hein.
Aller en vélo, c'est pas évident non plus. Hein. Voilà, aucune réponse. Je ne sais pas comment ça va devenir.
Bon, bah merci madame.
Ce sera pas un mal. Ça sera pas un mal qu'il y aura moins d'auto sur la TF.
On ira comment aussi,
madame. Il y a des vélos.
Oh.
Des vélos, il y a des. Vous avez. Votre mère vous a fait deux jambes.
Oui.
Bon, bah, c'est pour vous en servir. Bah, il y a les transports, comment il y a les trains, il y a.
Voilà.
Bon, déjà l'avion, elle bousille déjà l'atmosphère. Parce qu'avant, bon, bah, on parlait pas de CO2 et tout ça, pourtant il y a eu des automobilistes, mais beaucoup moins que maintenant. Maintenant, vous voyez plus que ça. Il y en a qui, pour 5 mètres, ils prennent leur voiture. Alors, c'est inadmissible, hein, de toute façon.
Vous êtes toujours sur PFM, dans l'émission Quoi que t'apinches, et voici une chronique de Ludivine sur Grégory Le Marchal.
Grégory Le Marchal, né le 13 mai. Il a grandi à Chambéry, en Savoie. Il avait 20 mois lorsque ses parents apprennent qu'il était atteint de la mucoviscidose. Malgré cette maladie respiratoire très grave, il pratique avec passion le basket et le foot. C'était un sportif très généreux. Il a fait ses premiers pas sur scène dans Graines de Star en 1999. Il est sélectionné pour participer à la 4e Star Academy en 2004. Par son charme et sa séduction, il a su conquérir 80% du public. Tout de suite, on écoute Grégory Marchal avec la chanson Le Lien.
Elle regarde ma main, elle s'accorde une pause. J'appelle à mon destin, mon cœur lourd se repose. Je ne sens que le bien, et le mal se suppose. Le lien. Elle remonte trop loin, les souvenirs s'essoufflent. Je trouve un peu de moi dans cette vie sur ces routes. C'est comme au bord d'un rien que le lien me revient enfin. Racontez-moi. Oh, fait 100 fois. Le jugement explose, l'ermite est au soleil, l'impératrice le monde. Pour moi, je serre encore les poings et je crie pour demain. Et je crie pour demain.
Après la chronique de Ludivine, voici un billet d'humeur de Raphaël.
Quand j'ai envie de parler, je me mets à chanter. Même parfois, je parle tout seul. Alors je me dis tais-toi, il faut se calmer. J'ai ma famille, mes amis, qui me rappellent que je ne suis pas tout seul sur cette planète. Et il faut que j'arrête de me plaindre. Il y a pire que moi et mieux. Alors je réfléchis. Comment je peux faire ma part des choses dans un monde qui nous fait penser à l'enfer et en même temps au paradis. Il faut se battre pour avoir sa place.
Imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont un treillis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent. Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mise sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui tue coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme Mama Galédou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chèvres et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leur kalachnikov qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans les détritus pour un bout de pain, mec, tu t'y habitues. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttant contre le froid, luttant contre la dalle. Maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les embouteillages. L'homme sort lentement de sa couverture, l'homme a ton visage. Dis-moi ce que tu ressens, le regardes-tu autrement? Avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Tant que ça ne nous touche pas, on sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras quand ta vie est belle. Car imagine-toi sans la musique, la santé abîmée par les 3-8, les allers-retours aux ascétiques. Saïd, imagine-toi sans cette réussite, en galère juste le SMIC, prisonnier de cette tour de briques. Imagine-toi sans sniper, moi sans psychiatre, c'est pour mon manque d'autres ne connaissent pas.
Imagine un peu nos vies en tout. tout ça, c'est pour ça. Remercions Dieu pour tout ça. Pardon pour les jours où je me plaigne, les jours où je ne vois que moi, mon nez, pas plus loin.
Pardon pour toutes ces fois où j'ai grossi mes problèmes, pour toutes ces fois où j'ai fait tourner le monde sur moi-même.
Ferme tes yeux juste une seconde, vois la misère du monde et ta place dans tout ça.
Prenons conscience de l'absence qu'on a et tu verras peut-être que la vie est belle.
Blanco et Soprano, ferme les yeux et imagine-toi.
Dans l'émission Cocktail Pinch, nous terminons par le reportage sur Gérard Lang, qui nous transmet sa passion et son dévouement pour le football.
Quelles sont les valeurs essentielles que vous enseignez aux jeunes ?
Il y en a plusieurs, mais celle qui est essentielle à mes yeux, c'est une notion d'éducation, c'est le respect. Dès le début jusqu'à la fin d'une carrière de footballeur, le respect est primordial. Il est présent partout dans le domaine footballistique. De ses partenaires, de ses adversaires que l'on va rencontrer lorsque on va jouer, des arbitres aussi. Sans les arbitres, le foot ne peut pas exister. Donc respecter les arbitres, ses décisions bien entendu, les lois du jeu qui en découlent. Et pour terminer, le joueur lui-même, c'est-à-dire pour moi, il doit se respecter. C'est-à-dire qu'il doit avoir une hygiène de vie. Voilà, pour moi, le respect, c'est certainement la valeur primordiale et la plus importante. Elle passe bien avant, je dirais, la solidarité, l'envie, la combativité, l'ambition, qui sont plus des valeurs de jeu.
Pensez-vous que dans les clubs amateurs, l'atmosphère se soit dégradée ?
Oui, c'est une bonne question. On peut dire que oui, l'atmosphère s'est dégradée dans les clubs amateurs. Pour de multiples raisons. Je pense qu'elle est Cette dégradation est à l'image de notre société actuelle et les clubs, les petits clubs, doivent faire face à de nombreuses difficultés. Il y a de moins en moins de bénévoles, de dirigeants, d'arbitres et aussi de joueurs dans certaines catégories. À l'heure actuelle, des moins de 18 ans, c'est difficile à former des équipes parce que bon, ils préfèrent faire autre chose. Il y a aussi les deux phénomènes importants, c'est la violence et le racisme. Et ça, c'est très inquiétant. Je pense sincèrement que d'ici quelques années, de nombreux petits clubs amateurs vont se regrouper et former des ententes dues à ces multiples problèmes.
De quel joueur êtes-vous fan ?
Actuellement ou...
Non.
Les joueurs
non,
qui ont marqué mon...
Ouais, vous pouvez... Ouais. Vous pouvez
également... J'en ai plusieurs. On va remonter un petit peu dans le temps. Je pense qu'il y en a certains. Tous les joueurs que je vais citer sont tous connus. Donc, en remontant dans le temps, dans les années 70-75, c'est un joueur qui m'a. Ce joueur m'a certainement le plus marqué. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. C'est Johan Cruyff. C'est un Hollandais. Un joueur hollandais. On le surnommait le Pelé Blanc. Il a fait les beaux jours de l'Ajax, de Barcelone et de l'équipe de Hollande à cette époque. C'est certainement pour moi. Un des meilleurs joueurs du monde. Par la suite, j'ai apprécié aussi, et on va revenir un petit peu chez les Français, j'ai apprécié bien sûr Platini. Par la suite, Zinedine Zidane, ça c'est certain. Quoique j'ai pas, en tant qu'éducateur, moniteur, je ne peux pas apprécier quand même son geste en finale de la Coupe du Monde 2006, parce que c'est condamnable. Et actuellement, celui que j'apprécie énormément, c'est Ribéry. En plus, c'est un pur ch'ti de notre région. Donc, lui-même ne l'oublie pas, hein, puisqu'il revient souvent du côté de Boulogne, puisqu'il est natif de cette région. Et il a surtout, ce joueur, deux grosses qualités, c'est l'humilité et la combativité, qui sont pour moi deux valeurs essentielles chez un footballeur. Et surtout aussi, il ne triche pas. C'est un joueur qui ne triche pas. Donc voilà, en gros, sur 30 à 40 ans, les joueurs qui m'ont marqué.
Comment êtes-vous devenu entraîneur ?
Tout naturellement, par le biais de mon père, qui était lui aussi un entraîneur dans le secteur d'Arras. Donc il a été entraîneur du RC Arras, donc l'ex-club que maintenant on appelle AFA. Il était aussi entraîneur de l'EDF d'Arras, avec cette équipe, elle a été champion de France, donc c'était pas si mal que ça. J'avais 6-7 ans et je suivais tous les joueurs qu'il entraînait, j'allais faire les footings avec lui et je m'intéressais déjà au foot. Après, en étant gamin, très rapidement, vers 16 ans, je donnais un petit coup de main à Saint-Nicolas, à une personne qui m'est chère, qui est Jean Deneville, qui est une personne connue aussi dans le secteur d'Arras, dans le football, dans le milieu du foot. Et donc, je donnais un coup de main pour entraîner les gosses de Saint-Nicolas tous les mercredis après-midi en tant que bénévole. Et par la suite, grâce à mes qualités de joueur, je fus embauché à la mairie de Saint-Nicolas, dont le maire à l'époque était M. Gerbrand. Il faut bien le dire que c'est grâce au football que j'ai été embauché aussi à la mairie de Saint-Nicolas. Et tout naturellement, M. Gerbrand, donc le maire, en m'embauchant, m'a dit « Je te détacherai le mercredi et le samedi pour t'occuper des gamins du club ». Et donc ça, c'est ce que je fais depuis plus de 25 ans. Donc j'entraîne tous les gamins du Sporting Club de Saint-Nicolas le mercredi et le samedi lors des matchs officiels. Suite à ça, j'ai passé quelques diplômes fédéraux et j'ai passé en 1995 un brevet d'état premier degré qui me permet d'entraîner des seniors. Je peux entraîner un club de division d'honneur, donc ce qui n'est pas trop mal. À l'heure actuelle, je suis à Saint-Laurent-Blangy et je vais quitter Saint-Laurent à la fin de cette saison pour arriver à Saint-Nicolas pour gérer toutes les équipes et je vais faire un petit peu office de manager général. Voilà un peu ma carrière d'entraîneur qui, j'espère, est loin d'être terminé.
Que pensez-vous du foot féminin ?
Le foot féminin, à l'heure actuelle, il est en plein essor. Il y a seulement une dizaine d'années, lorsqu'une fille arrivait au stade pour s'inscrire, ça faisait rigoler les garçons. Aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est aussi une volonté des instances, la fédération bien entendu, mais aussi la direction technique nationale qui promouvoit le foot féminin. D'ailleurs, moi ça me dérange pas. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Bien qu'au fond de moi-même, je suis persuadé que le foot reste quand même un sport masculin.
Quel est votre meilleur souvenir sportif ?
J'en ai plusieurs, en tant que joueur bien entendu, mais aussi en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, ce fut un titre de champion interdistrict quand j'évoluais en minime au Racing Club d'Arras. Par la suite, ce fut une montée avec les seniors de Saint-Nicolas en régional. J'avais 17 ans, j'étais junior première année, je n'ai jamais joué dans cette catégorie, j'ai joué avec les plus grands. Et on est monté, et c'est un souvenir qui m'a marqué. En tant qu'entraîneur, j'en ai vécu aussi plusieurs. En petit, à Saint-Nicolas, j'ai remporté avec les minimes Coupe d'Artois. On a été champion aussi cette même année-là de toutes les promotions de première division. Avec les seniors de Saint-Nicolas, puisque j'ai pris en charge les seniors de Saint-Nicolas il y a à peu près une dizaine d'années, pendant 4 saisons, on est monté 3 années consécutivement. Et là, je peux vous dire que c'est un énorme souvenir, puisque de la première division de district qui était le summum au niveau district à cette époque-là, on est arrivé en interrégional, qui est un bon niveau de ligue. J'ai aussi un gros souvenir, c'est lors de la saison 2000-2001, et ça je pouvais pas le prévoir, j'étais toujours entraîneur des seniors de Saint-Nicolas, et j'ai rencontré un club, et ça va certainement donner quelques souvenirs à certains, qui était Calais, au 5e tour de la Coupe de France à Saint-Nicolas. Et je me rappelle très bien, on avait perdu 3-1 ce match-là, on avait joué à 10 une heure, on avait eu notre libéro d'expulsé, on avait tiré sur le poteau, et 5 mois après, Calais a fait la finale de la Coupe de France au Stade de France contre Nantes. Et ils avaient perdu 2-1. C'est pour vous dire tout simplement que c'est ça la magie du foot et que on ne passe que des bons moments.
Que pensez-vous du dopage dans le foot et le sport en général ?
C'est un fléau qu'il faut combattre absolument. Plus ou moins exister, Mais c'est vrai qu'actuellement, les enjeux financiers et la médiatisation font que beaucoup d'athlètes n'hésitent pas à prendre des substances qui sont interdites, bien entendu, pour optimiser leur performance. Le dopage, il apparaît presque dans tous les sports. Il est visible dans certains, que sont le cyclisme ou l'athlétisme, mais il tend à se généraliser. Et ça, c'est inquiétant. Parce que pour moi, doper, c'est tricher. Et c'est aussi pour l'athlète, il met en danger sa santé.
Comment se fait-il que c'est dans le football qu'il y ait autant d'argent brassé, en fait, quand on regarde le volley, le hand
Ou le rugby.
Le rugby,
ouais, oui. Tout simplement parce que c'est certainement le sport qui est le plus médiatisé. Vous dire les salaires et tout des joueurs, on ne va pas rentrer dans ce domaine, mais c'est vrai que c'est phénoménal. Et je pense que, sincèrement, c'est trop.
Ainsi se termine cette émission à laquelle ont participé Grégory, Raphaël, Frédéric, Pascal, Patrick, Ludivine et Emmanuel. Nous vous remercions de votre écoute.
Coq Tapinche, Chichata Thérèse, rappelle-moi à PFM 99.9.